Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui, pour parler de l'arme aérienne, des utilisations qui en sont faites, et des problématiques, notamment morales, qu'elle soulève, j'ai le plaisir de recevoir le lieutenant-colonel Florian Morilla, officier donc dans l'armée de l'air et de l'espace, et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'un ouvrage intitulé « Éthique et puissance aérienne » aux éditions Economica, préfacé d'ailleurs, on peut le préciser, par le chef d'état-major des armées, le général Lecointre. Donc bonjour, bienvenue de nouveau, de retour dans le collimateur.
Bonjour monsieur Jublin.
Alors je dis de nouveau de retour, parce que c'est amusant, mais en fait on s'est déjà rencontrés, et les auditeurs fidèles du collimateur vous connaissent déjà, mais sans le savoir, puisque vous étiez l'année dernière stagiaire à l'école de guerre, et vous êtes l'un de ceux qui sont passés par le micro pour raconter des souvenirs d'opérations dans le format Dans le Viseur. Alors évidemment tout est anonymisé dans les Dans le Viseur, mais les auditeurs les plus curieux pourront essayer de faire le lien et de retrouver votre récit. Je fais confiance à leur sagacité et à leur esprit de déduction. Mais ce n'est donc pas cette fois pour nous raconter une histoire d'opération et une vie militaire que vous venez au micro, mais pour parler de cet ouvrage et de cette réflexion que vous y menez sur éthique et puissance aérienne, donc sur les cadres et sur les limites éthiques qui s'imposent à l'usage de la force dans les airs et sur la réflexion qu'on peut donc déployer là-dessus. Donc, on n'est pas là pour parler de vos histoires de déploiement, encore une fois, et en même temps, et encore, parce que vous êtes, bon, malgré tout, peut-être avant tout aviateur, et donc peut-être que c'est vous qui allez nous le dire, c'est-à-dire, c'est peut-être un bon moyen d'entrer dans la question, pourquoi cet ouvrage, et dans quelle mesure est-ce que c'est votre expérience, et peut-être aussi votre fréquentation d'autres aviateurs, qui vous a poussé à mettre tout ça par écrit, puis à le publier?
Alors, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai entrepris la rédaction de cet ouvrage, tout simplement parce que j'ai réfléchi sur ces questions pendant mon année de scolarité à l'école de guerre. Nous avions un mémoire à rédiger et je m'étais consacré à ces questions-là. Il se trouve qu'en parallèle, elle m'intéresse depuis quelques temps puisque j'enseigne aussi à l'INALCO sur un sujet qui est lié. Et donc du coup, j'ai rédigé mon mémoire et à l'issue, il se trouve que, pour vous donner une petite anecdote, quelqu'un qui avait participé à m'aider en tout cas dans mes travaux, qui était le général Benoît Royal, je lui ai donné le manuscrit à la fin et il m'a dit, il a dit qu'il aimait beaucoup ce manuscrit et qu'il aimerait le publier. Je ne savais pas, mais il dirige une collection dans une maison d'édition et donc il m'a proposé de soumettre ce manuscrit à la publication et c'est ce que l'équipe d'Economica a choisi de le publier. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé là.
Alors, revenons plutôt sur l'origine de la réflexion, quoi, du questionnement sur l'éthique, la puissance aérienne, c'est-à-dire les limites, les cadres qu'on se pose à soi quand on opère depuis les airs. Comment c'est comme ça? Est-ce qu'on se pose beaucoup de questions chez les aviateurs, particulièrement, plus que dans les autres armées peut-être, puisque vous avez fait de l'interarmée, ne serait-ce que l'an dernier à l'école de guerre?
On aurait tort de ne pas s'en poser. Je répondrais plutôt de cette manière-là. Je pense que n'importe quel détenteur de la force se doit de réfléchir à la manière dont il va l'employer. Alors évidemment, les choses sont cadrées. Il y a tout un cadre à la fois juridique, mais également réglementaire. Mais souvent, enfin, il reste parfois des zones floues ou des zones où l'appréciation individuelle rentre en jeu. Et c'est à ce moment-là que l'éthique intervient. Et c'est ça qui me semblait intéressant d'explorer et de voir dans les limites qu'il reste à l'opérateur ou au chef ou au commandeur, quelles décisions prendre dans la mesure où l'éthique, à la base, c'est un choix. C'est que choisir entre deux solutions, une bonne et une moins bonne, ou la pire et la moins pire, parfois, malheureusement. Et ça me semble intéressant de se poser ces questions-là, de se les poser en amont, évidemment, pour essayer de prendre la meilleure décision le jour où on a besoin de la prendre.
Ouais, mais je veux dire, c'est un truc qui revient souvent. Enfin, je sais pas, dans les discussions entre aviateurs, dans les... Est-ce que c'est un truc qui fait partie, si ce n'est du quotidien, parce que ça n'a pas forcément besoin d'y penser à chaque instant, mais si, voilà, dans les discussions, quand on échange, quand on se raconte des récits d'opérations, c'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que c'est un truc, hein, une sorte de, pas de dilemme, mais en tout cas d'arbitrage, toujours, qui est particulièrement prégnant chez ceux qui volent, en l'occurrence?
Ça revient forcément de plusieurs manières. Il y a évidemment dans le cadre de la formation, ça c'est la première manière, c'est les bases. Donc aujourd'hui, j'en parle un petit peu dans le livre, les armées françaises, mais c'est pas les seules, hein, ont choisi d'avoir un socle de formation en particulier pour leurs officiers, mais pas uniquement, en début de carrière, pour sensibiliser les gens à ces questions éthiques. Ça, c'est le côté de formation de base. Il y a une formation juridique qui est une formation continue au droit des conflits armés, avec une fréquence régulière de remise à jour, je dirais, des connaissances des militaires, quelle que soit l'armée. Donc ça, c'est pour le volet un petit peu encadré. Et puis après, il y a, et je pense que c'est un peu le sens de votre question, il y a tout ce qui est moins encadré, c'est-à-dire tout ce qui est plus naturel, où en fait les gens discutent assez librement de ces choses-là, de leur expérience personnelle. Alors c'est jamais intentionnellement, c'est pas une discussion, aujourd'hui on va parler d'éthique, mais au travers des discussions au bar de l'escadron, ou le soir en revenant d'une opération, enfin il y a plein de moments qui sont propices à ce genre de discussion, et où là les langues se délient un petit peu, et où les gens évoquent des moments qui ont été un peu forts, qui ont été parfois difficiles, où parfois ils n'ont pas forcément pris la bonne décision, et du coup ce partage un peu informel participe, je dirais, de l'éducation générale éthique des militaires et des aviateurs en particulier.
Oui, mais c'est la partie aviateur en particulier qui m'intéresse, enfin, parce que c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de l'ouvrage, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'arme aérienne, pourquoi est-ce que ça pose tant de... J'allais dire problème, mais pourquoi en tout cas ça pose autant de questions. C'est, alors, comment dire, peut-être une manière de situer le problème, c'est que ce serait peut-être de relever, comme vous le faites, qu'il y a un décalage qui est intéressant entre la représentation qu'on a de l'arme aérienne. Alors, bon, c'est notamment dans sa composante air-sol, hein, c'est-à-dire dans les bombardements aériens. On ne parle pas tellement ici des missions d'évacuation des blessés. C'est la question de porter la mort depuis les airs, notamment. Donc, il y a une sorte de décalage entre cette idée des dégâts qu'elle peut faire, et la manière dont on se représente souvent les bombardements et l'aviation, et les dégâts que l'aviation fait réellement. Ce que je veux dire, c'est que spontanément, quand on pense à la puissance aérienne et à ses capacités, bon, on a en tête, je sais pas, les bombardements de Dresde ou de Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombes au napalm au Vietnam, ou même les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, dont on peut rappeler qu'elles ont quand même été larguées par des avions, sans parler même des drones aujourd'hui dont on aura à discuter. Donc dans tous les cas, c'est vraiment l'image de dégâts terrifiants, et pourtant ce que vous relevez, c'est que quand on regarde un peu précisément les chiffres, on estime à moins de 2% le pourcentage des victimes de guerre du XXe siècle qui proviennent de l'arme aérienne. Donc, comment dire, c'est en quelque sorte en deux parties, à la fois pourquoi c'est si peu, et puis aussi pourquoi le corollaire, à savoir pourquoi est-ce que la mort qui vient du ciel frappe beaucoup plus apparemment l'imagination que celle qui a en quelque sorte les deux pieds au sol.
Alors déjà, il y a plusieurs questions dans votre question, mais pour répondre à la première partie... Vous me demandez en quoi c'est spécifique, en quoi est-ce qu'il y a une spécificité éthique à l'arme aérienne. Je pense pour tout un tas de raisons qui dépendent de ses caractéristiques propres, qui sont par exemple la capacité à délivrer des armes à forte létalité sur des emplacements aujourd'hui très précis, donc une puissance de feu assez forte, mais pour autant maîtrisée, que ce soit localement, enfin dans l'espace et dans le temps, le fait de pouvoir s'affranchir de certaines limites terrestres et donc d'aller porter la puissance, enfin la force derrière les lignes ennemies, par exemple. Vous avez cité les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, mais de manière générale, l'armée aérienne permet d'aller plus loin que ce que les soldats au sol ou les marins peuvent produire comme effet, même si aujourd'hui on pourra en reparler avec le lance-roquettes unitaires par exemple de l'armée de terre ou avec les canons César ou les missiles, les MDCN qui ont des portées bien plus longues, mais historiquement c'est quand même l'arme aérienne qui permettait de s'affranchir de ces distances-là, des critères de rapidité, des critères de visibilité, donc l'aspect diplomatique un petit peu de l'arme aérienne qui est très visible et qui peut peser dans la balance avec toujours une réversibilité assez simple, enfin, ouais, pas mal de caractéristiques, je ne vais pas toutes les détailler, de l'armée aérienne.
La réversibilité, on va le dire, c'est que l'avion, ça présente l'avantage de quand il y a un avion qui part, on peut le rappeler au dernier moment. Du coup, ça ne fait pas exactement la même chose que tirer un missile depuis une frégate ou une fois qu'il est parti, il est parti. Quoi.
Oui, ou avoir déployé un bataillon d'infanterie sur le terrain, eh bien, si à un moment donné on dit ok, on arrête l'opération, il est déjà quand même bien impliqué, je dirais, dans la zone des combats. L'avion peut, lui, être arrivé puis repartir sans avoir délivré son armement. C'est tout le volet dissuasif, alors au sens dissuasion, pas dissuasion nucléaire, mais dissuasion conventionnelle. Donc toutes ces caractéristiques-là de l'arme aérienne ont comme implication que les questions éthiques peuvent parfois être un peu différentes, ou en tout cas prendre un aspect différent quand on y réfléchit. Il y a également le côté de haute technologie, qui est souvent auquel on pense rapidement quand on parle de puissance aérienne. Et ça, évidemment, ça pose tout un tas de questions, dans le sens du... Enfin, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des débats à l'Assemblée, notamment sur la bioéthique, ou en règle générale, sur tout ce qui est progrès, un petit peu. Donc la technologie est assimilée au progrès, le progrès est assimilé à un questionnement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on va dans le bon sens? Et donc l'arme aérienne, plus rapidement que les autres, est concernée par ces questions-là.
Ouais, mais alors, du coup, est-ce que c'est pour ça, vous pensez, qu'on a des images si terrifiantes de l'arme aérienne et de ses conséquences, alors que, comme je le disais tout à l'heure, si on regarde les chiffres, quoi, les statistiques, bon, c'est pas ce qui fait le gros des victimes dans un conflit, quel qu'il soit, quoi.
Je pense qu'on a ces images-là parce que, d'une part, c'est très visuel, parce que, d'autre part, on a l'héritage historique de certaines... certains modes d'action qui aujourd'hui sont condamnés, comme par exemple les bombardements de zone, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, où la précision des bombardements n'était pas suffisante pour pouvoir traiter des objectifs sans faire de dommages collatéraux, pour parler assez clairement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, la technologie nous permet de ne plus commettre des choses que nous avons pu commettre par le passé. Et donc, l'imaginaire collectif a toujours ça en tête.
Ouais, c'est cette idée de l'avion qui frappe avec. Oui, mais par exemple... Je sais pas, l'artillerie. L'artillerie, par exemple, c'est typiquement un outil qui, historiquement, a toujours frappé pas à l'aveugle, mais plus ou moins à l'aveugle, puisque on en parlait il y a pas très longtemps dans un épisode. L'artillerie, c'est un truc statistique, quoi. Si on bombarde sur une zone, on peut rarement taper exactement un truc, quoi. On essaie de bombarder un carré de terrain, quoi. Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, peut-être que pas tant que ça, mais si, pourquoi est-ce que l'idée des bombardiers qui arrivent et qui viennent semer la destruction, c'est beaucoup plus frappant et beaucoup plus choquant que l'idée d'un canon qui tire de très loin à l'aveugle.
Alors je dirais pour deux raisons. La première, c'est que historiquement, souvent l'artillerie, alors je suis pas un grand connaisseur de ces questions-là, mais ciblait plutôt des objectifs militaires. Et dans l'imaginaire collectif, on comprend aisément que des militaires fassent la guerre à des militaires. Il est beaucoup plus difficile de concevoir que des militaires fassent la guerre à des civils. Et d'ailleurs, c'est condamné par le droit des conflits armés. Et puis, basiquement, pour des considérations éthiques, tout le monde s'accorde à dire que c'est généralement pas comme ça qu'il faudrait faire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est une notion fondamentale quand on réfléchit aux questions d'éthique militaire, c'est la question de l'asymétrie ou de la dissymétrie, où pour un bombardement d'une population civile, par exemple, eh bien, on a un vecteur technologique puissant qui représente vraiment un déchaînement de violence face à une population qui n'a pas les moyens de riposter. Et donc c'est ça qui marque l'imaginaire collectif, sans doute, là où une artillerie frappe des troupes qui elles-mêmes ont leur propre artillerie. C'est jamais exactement équitable, mais le rapport de force est à peu près, en tout cas, du même ordre de grandeur. Ce qui n'est pas le cas d'un bombardement, encore une fois, qu'on parle de bombardement de zone ou même des bombardements de précision, où on a clairement un avantage technologique, matériel, voire de feu, dans un des deux camps.
Ouais, on reparlera de cette question de l'asymétrie, parce que je pense que c'est vraiment la question fondamentale. Mais on peut simplement, pour rester vraiment sur les processus, enfin, en tout cas sur les idées du bombardement, on peut peut-être mentionner qu'il y a plusieurs philosophies qui cohabitent en fait un peu depuis toujours sur cette question de l'assaut depuis les airs, à savoir bah, entre la masse et la précision, c'est la distinction que vous avez un peu faite là entre bombardement de zone et bombardement de précision, mais ça s'est fait à différentes périodes et de différentes manières. On peut peut-être dire, alors faire juste un écart théorique, disons de la théorie stratégique, que dès les débuts de l'arme aérienne et de son utilisation, l'une des premières théorisations, clairement, va dans le sens de pilonner un peu indistinctement l'ennemi, y compris sa population civile. C'est notamment les réflexions de Giulio Douai, dont on avait parlé dans notre émission il y a maintenant un an, sur les classiques de la réflexion stratégique, qui clairement pensait, dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, que l'aviation, ça allait permettre d'écourter les conflits, mais à force de pilonner la population ennemie, du coup, forcer l'ennemi à capituler. C'est-à-dire, l'idée, c'était clairement, voilà, il faut pilonner tout le monde, y compris la population, et c'est comme ça que l'aviation va permettre de résoudre les conflits.
Moi, je suis d'accord avec vous, historiquement. Je ferai remonter, moi, le début de la puissance aérienne ou de l'utilisation de la puissance aérienne en tant que telle à la guerre de Libye, donc en 1911, entre les Italiens et les troupes turques, où c'était la première fois que, depuis un avion, un lieutenant, en l'occurrence italien, jetait une grenade, enfin une sorte d'arme sur les opposants. Et donc ça avait vraiment marqué les esprits à l'époque, parce qu'on entrait dans une dimension qui était inconnue jusque-là. Et donc évidemment c'était très sommaire, il n'y a pas eu de dégâts d'ailleurs à ma connaissance sur cette occasion particulière, mais ça a été donc développé assez rapidement derrière. La Première Guerre mondiale a été le laboratoire, je dirais grandeur nature, des prémices de l'arme aérienne et de l'utilisation pour ce qui nous concerne en bombardement, mais ce n'était pas la seule utilisation de la puissance aérienne. Et derrière, vous évoquiez Douai, il y a eu quelques penseurs effectivement pendant l'entre-deux-guerres, je pense au Britannique Trenchard également, à l'Américain Mitchell, qui eux ont cultivé un petit peu, ont pris le meilleur, comment dire, le plus démonstratif de ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale, et ont érigé ça comme quelque chose qui marchait à tous les coups et qui permettait de renverser le cours de la bataille, ce qui en vrai n'était pas avéré.
Donc en l'occurrence, un bombardement quoi, indistinct, un bombardement massif?
Alors, entre autres, bon, tous n'étaient pas exactement d'accord, n'avaient pas la même ligne, mais si on prend Douai par exemple, Douai lui était partisan d'un bombardement à outrance. Il écrivait même que c'était pas nécessaire d'avoir une aviation de chasse, puisqu'au bout d'un moment, les bombardiers auraient bombardé tous les aéroports et il y aurait plus d'avions qui pourraient décoller en face, et puis on pourrait s'en prendre à la population civile pour la terroriser. Et puis l'idée qui était derrière, c'était quand même, il y avait une finalité, et la finalité c'était de faire perdre. De désolidariser l'opinion publique du pays visé de son gouvernement qui faisait la guerre, et de du coup conduire le gouvernement à arrêter la guerre.
Ouais, mais alors, donc tout ça, ça restait quand même relativement sommaire pendant un premier temps. Alors l'aviation pendant la Première Guerre mondiale est très importante, mais pas très importante en masse à l'échelle des combats qui sont gigantesques pendant la Première Guerre mondiale. Il y a ce temps de réflexion pendant l'entre-deux-guerres, mais on peut mentionner que c'est même pas une des tentations, ça a été une des solutions, et une des solutions de fait très efficaces pendant la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on a appelé les bombardements stratégiques ou les bombardements de zone, notamment anglais sur l'Allemagne et américains sur le Japon. Et voilà, c'est un vrai truc qui s'est passé, ça a été un mouvement, ça a été une orientation de la politique, de la stratégie aérienne, bon, de tout le monde, mais notamment des futurs vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, avec des personnages comme Arthur Harris en Angleterre ou Curtis LeMay aux États-Unis, ce qu'on a appelé, on a appelé ça parfois la bomber mafia pour désigner, en gros, ces partisans de très gros bombardements en très haute altitude où il s'agissait vraiment de pilonner assez aveuglément, quoi.
Oui, donc il y a eu ces partisans de ces bombardements à outrance. Je voulais juste revenir sur l'efficacité de ces bombardements, puisque il faut savoir qu'aujourd'hui encore ça fait débat. Les gens ne sont pas, enfin les historiens ou les spécialistes ne sont pas d'accord entre ceux qui considèrent que le bombardement stratégique a eu un rôle à la fois sur le théâtre allemand, je dirais, enfin en tout cas européen, et sur le théâtre japonais ou pacifique, sur l'évolution favorable pour les alliés du conflit, et ceux qui considèrent que c'est un tout petit paramètre, voire un paramètre inexistant par rapport au reste. Bon, quand on essaie d'être, et c'est ce que j'essayais de faire dans mon livre, d'être le plus objectif possible, eh bien on se rend compte que il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que ça n'a pas toujours été déterminant, ou c'est pas ça qui a complètement renversé le cours de la guerre. Maintenant, sur les deux théâtres, et en particulier sur le théâtre pacifique, je dirais, on ne peut pas contester l'efficacité, en tout cas que ça ait une efficacité. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que pour autant ça en valait la peine, compte tenu des dégâts que ça a occasionné, des victimes que ça a engendré.
On peut rappeler que c'est des trucs complètement terrifiants qu'on a un peu oubliés, mais par exemple le bombardement de Tokyo en mars 45, c'est des bombardements au napalm sur une ville qui est globalement construite en bois. Enfin, c'est terrifiant le niveau de victimes civiles que ça a provoqué. Et souvent, c'est assez passé sous le tapis parce qu'il y a eu Hiroshima et Nagasaki et que pour des très bonnes raisons, ça fixe la tension. Mais je veux dire, ça vit vraiment de raser des mégalopoles gigantesques, quoi.
Alors, pour cette raison-là, c'est vrai. Et pour une autre raison, je pense, qui est très française, c'est que, historiquement, on s'intéresse quand même beaucoup moins à ce qui s'est passé dans le Pacifique que ce qui s'est passé sur le territoire européen. Et pour cause, ça peut se comprendre aussi. Mais évidemment, vous parlez du raid de Tokyo, je pense qu'il est très emblématique. Le raid de Tokyo, c'était un peu plus de 300 bombardiers qui reviennent quasiment tous d'ailleurs, ce qui n'était pas du tout le cas des bombardements en Europe. Et sur un seul raid, un résultat est évalué à peu près 80 000 morts. Donc c'est quand même c'est colossal, c'est à peu près le même ordre de grandeur que le bombardement d'Hiroshima. C'est difficile toujours d'avoir des chiffres exacts des victimes, notamment pour les bombardements nucléaires, puisqu'il y a eu les victimes sur le coup et puis il y a eu les victimes dues à la radioactivité derrière, mais c'est le même ordre de grandeur. Alors, il faut vraiment voir ça comme une... J'allais dire une évolution, c'est pas connoté le terme évolution, mais on passe de, on va dire, des bombardements sur l'Europe, où en gros c'est des raids de bombardiers qui se font décimer et qui font des victimes et qui rentrent avec, généralement je crois que les chiffres c'est de l'ordre de 15% à chaque raid, de 15% des bombardiers en moyenne qui rentrent pas, donc c'est quand même, c'est beaucoup. Là, côté japonais, pour tout un tas de raisons qui seraient un peu longues à expliquer, mais il y avait une force d'opposition bien plus faible, en tout cas en 45, qui font que l'agresseur, c'est-à-dire les Américains qui bombardent ont quasiment aucun dommage, créent des dommages colossaux sur un seul raid. Et puis, l'apogée, c'est les bombardements nucléaires, où là, un avion, une bombe, et autant de morts que 300 avions et autant de bombes, voire multipliés d'ailleurs, parce que les avions ont porté plusieurs bombes. Donc on passe vraiment d'un début de beaucoup d'avions, beaucoup de bombes et des dommages très équilibrés, je dirais, vraiment une surpuissance du côté de la personne qui détient le bombardement nucléaire.
Ce qui ne note rien à l'atrocité par ailleurs des bombardements qui ont lieu en Europe, et Dresde est par exemple une ville totalement emblématique de ça, et on pourrait argumenter sur les effets qu'un pilonnage comme celui de Dresde a eu sur les niveaux d'engagement et disons les seuils de guerre à outrance dans la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais je vais signaler au passage quelque chose dont je parle de temps en temps, c'est deux très remarquables épisodes de la saison 5 du splendide podcast Revisionist History de l'écrivain Malcolm Gladwell, où il parle beaucoup de la Bomber Mafia, d'où elle vient et de comment elle s'est imposée dans la conduite de la guerre, notamment dans la réflexion stratégique anglaise puis américaine. Évidemment, c'est en anglais, mais c'est vraiment extrêmement éclairant pour qui s'intéresse à cette question et à cette période, et à comment est-ce qu'on est arrivé à ces bombardements de masse, avec en plus cette arme nouvelle qui apparaît, qui est le napalm, ce qui fait des bombardements incendiaires, ce qui fait encore, disons, un nouveau stade dans les niveaux de victimes civiles qu'on peut faire. Donc ça, c'est clairement la tentation des bombardements stratégiques, des bombardements de zone, des bombardements de masse, c'est-à-dire vraiment d'ensevelir le territoire et la population ennemie sous la masse des bombes. Mais en même temps, clairement, il y a aussi la tentation, et en tout cas l'objectif, de la précision, en quelque sorte de l'autre côté du balancier. Alors, c'est évidemment toujours conditionné aux possibilités techniques, mais il y a notamment cette image qu'on a beaucoup entendue, par exemple à la fin des années 90, de l'idée des frappes chirurgicales, c'est-à-dire l'idée que on pourrait être très précis, chirurgical, sans trop de dommages collatéraux, dans ses actions venues du ciel.
Ouais, c'est clairement la tendance qui est prise par les armées occidentales. On a appelé ça à l'époque la révolution des affaires militaires, qui se déclinait pour la partie aérienne, en particulier à l'utilisation d'armements de plus en plus précis. C'est ce qu'on appelle les armements de précision, ou les armes guidées de précision. On considère que le premier conflit où ça a été où ça a commencé à être employé, c'était la campagne Desert Storm, donc en Irak, en 91, pour la première guerre du Golfe. où je crois, mais il faudrait vérifier, que c'est de l'ordre de 7% des munitions qui étaient des munitions guidées de précision. Et puis ça a augmenté progressivement avec les conflits en ex-Yougoslavie pour arriver, je l'évoque dans mon livre, sur le conflit libyen, donc l'opération Harmattan, où il y a eu 100% des armements utilisés qui étaient des armements de précision. Et donc on voit bien qu'en l'espace de 91-2011, donc en l'espace de 20 ans, on est passé de quasiment aucun armement de précision à du tout précision.
Alors, on peut préciser tout simplement que ça démultiplie considérablement. Enfin, je crois que vous relevez quelque part que la précision de largage d'une bombe, c'était d'un kilomètre dans les années 40, et aujourd'hui, c'est entre 3 et 30 mètres. Quoi. Ouais. Donc on voit, c'est même pas le changement d'échelle, c'est le changement quasiment métaphysique de ce que ça veut dire de lâcher une bombe depuis le ciel. Alors après, ça n'ôte pas le fait qu'il peut y avoir des problèmes de ciblage, de ce qu'on, et il peut toujours y avoir des trucs, mais clairement, on n'est plus dans la même idée, dans les mêmes objectifs, dans les mêmes conditions de possibilité du bombardement. Quoi.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que là, je vous parle de la réflexion occidentale. Alors, j'essaie de le dire aussi, tous les pays n'ont pas exactement la même manière de considérer les choses, même au sein du bloc, on pourrait dire, occidental, parce qu'il y a toujours des différences d'appréciation sur pas mal de choses. Mais pour prendre un exemple opposé, assez parlant, je pense, si on prend ce qui se passe en Syrie actuellement et avec les bombardements par hélicoptère de l'armée syrienne sur les civils, ce qui a été beaucoup pratiqué, bon, on voit qu'on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. Dans un cas, les armées occidentales cherchent à vraiment éviter au maximum tous les dommages collatéraux. Les dommages fratricides aussi, évidemment, mais les dommages collatéraux en particulier, alors que d'autres sociétés avec d'autres systèmes de valeurs ne privilégient pas, enfin, n'ont pas ces considérations-là. Et je le dis d'autant plus librement que c'est vraiment, faut le prendre de manière un peu, faut prendre un petit peu de recul là-dessus, je pense, sur le fait que c'est une histoire de valeurs, tout simplement. Et faut pas, enfin, moi, je ne considère pas que quelque chose est mieux. Enfin, j'ai mon avis personnel là-dessus, mais il faut essayer de comprendre pourquoi les gens se comportent d'une certaine manière, sans tomber dans la sociologie. Mais, et je pense que...
Il y a autre chose pire que de tomber dans la sociologie, mais sans tomber, disons, dans la réduction excessive.
Oui, et puis, non, enfin, je voulais dire par là que je n'ai pas les connaissances suffisantes pour faire une étude sociologique sur ces questions-là. Mais je pense que chaque société, chaque nation poursuit des objectifs sur la base d'un système de valeurs, et donc elle encadre son action sur la base de son système de valeurs. Et donc on a, côté occidental, beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais c'est pas des questions qui préoccupent tout le monde aujourd'hui.
Ouais, mais alors ce qui est intéressant, c'est que alors même que c'est possible, enfin, c'est de plus en plus possible, évidemment il y a toujours de la marge d'erreur qui est tout sauf négligeable, mais pour autant, c'est quand même, il y a quand même quelque chose toujours aussi inacceptable dans les dommages collatéraux quand ça vient du ciel. Enfin, j'y pense parce que, alors je sais pas exactement quand on va diffuser cet épisode, mais il y a quelques semaines, on est toujours dans une très grosse polémique, par exemple dans une frappe aérienne au Mali. Alors vous êtes officier de l'armée de l'air, je vais pas vous demander de commenter ce truc-là en détail, parce que c'est pas le propos et c'est pas votre rôle. Mais cela dit, il y a quand même un truc qui est frappant des bavures, on peut le dire, des dommages collatéraux, voire des victimes civiles. Par exemple, au Mali, c'est pas rare qu'il y en ait. Mais quand il y a une frappe aérienne et quand il y a l'idée qu'une frappe aérienne puisse avoir tapé à côté ou de manière inappropriée, il y a un truc, il y a une réaction, il me semble, en tout cas, j'ai l'impression qui est particulièrement forte parce qu'il y a l'idée que c'est particulièrement inacceptable.
Oui, c'est vrai, c'est très vite exploité et c'est d'autant plus pris en compte que c'est justement facilement et rapidement exploité. Donc, en tout cas pour ce que je connais le mieux, hein, mais pour les armées françaises dans la conception de la délivrance des feux par à travers de l'arme aérienne, eh bien c'est des problématiques qui sont évidemment largement prises en compte. Il y a une attention très particulière qui est accordée à la fiabilité des renseignements qu'on obtient, parce que c'est une des premières erreurs qu'on peut encore avoir aujourd'hui, c'est d'intervenir sur un renseignement qui est faux. C'est arrivé notamment pendant la guerre d'Irak avec un bunker qui avait été frappé, qui était censé être un bunker comportant des soldats de Saddam Hussein, et en fait c'était des civils qui étaient à l'intérieur, donc tout avait été bien fait, la frappe était précise comme il fallait, mais sauf que la base du renseignement était pas bonne, était erronée. Donc ça, c'est toujours évidemment possible. Il y a d'autres problématiques.
C'est la première ou la deuxième guerre du Golfe?
C'est pendant la première, c'était en 91. Ouais. Il y a d'autres problématiques possibles, comme des défauts technologiques, par exemple. Il est arrivé un moment où il y avait un moment où on avait un problème sur les bombes françaises parce qu'il y avait un élément qui était défectueux dessus et donc les bombes ne faisaient pas but. Alors même que les procédures étaient respectées, et ainsi de suite. Donc il y a toujours des paramètres en fait externes, mais qu'on essaie évidemment de maîtriser, et tout simplement parce que, comme vous le soulignez très bien, dès qu'une frappe aérienne commet des dommages collatéraux, eh bien c'est très vite mis en lumière et beaucoup plus que d'autres erreurs, je dirais, qui pourraient être faites par les forces armées.
Ouais, mais j'y pense le. Est-ce que cette course à la... Enfin, surtout quand il y a des décalages et des philosophies différentes, ce que vous nous avez expliqué il y a deux minutes, est-ce que c'est pas un désavantage, disons, de chercher tant que ça à la précision, à la perfection? Ce que je veux dire, c'est que si on se place dans la perspective, ce que font de plus en plus les armées, d'un conflit de haute intensité, c'est-à-dire... Voilà, est-ce que par exemple, si on est face à un ennemi qui est moins regardant sur ses bombardements, est-ce que j'allais dire les scrupules, mais en tout cas le souci absolu de ne faire pas de victimes collatérales, est-ce qu'il n'y a pas une limite et un défaut d'efficacité, en tout cas une efficacité moindre, quand on prête tant d'attention à ça, en sachant que c'est par ailleurs un objectif qui est jamais complètement atteignable?
C'est le cœur de la problématique dans l'éthique militaire, c'est de toutes les barrières qu'on va s'opposer soi-même à notre action militaire peuvent générer comme conséquence une dégradation de notre avantage militaire quelque part. Et donc on peut considérer, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de ce genre de choses, qu'il y a une prime d'efficacité au moins 10 ans éthique dans une confrontation armée. Alors c'est vrai, c'est indéniable, mais si on se place sur une logique un peu plus long-termiste, je dirais, il faut se poser la question sur la pertinence de mal se comporter à long terme. C'est-à-dire que, certes, on peut avoir une victoire tactique ou une victoire opérationnelle à court terme, mais derrière, est-ce que pour autant ça va... Parce que ça risque de fragiliser le processus, alors le processus de paix évidemment, puisque plus on a commis de massacres, ou moins on a respecté les règles de la guerre, et bien plus ça va être difficile de se réentendre derrière, parce que le but de la guerre, je crois que c'est Aristote qui le disait, c'est quand même de retourner à un état de paix derrière. Donc pour pouvoir avoir un état de paix derrière, mais il faut avoir respecté, c'est plus facile si on a respecté des choses. Donc pour répondre à la question, accepter de s'imposer certaines limites peut être payant d'une certaine manière à plus long terme.
Direction la caserne, accablé par la chaleur, et mon visage éterne, je sens que mes mains tremblent de peur. Je pense à tout ça, à cette situation, à tout ce que je ne comprends pas, ma conscience à quelques questions est finie de penser, de réfléchir, de cogiter. Un vrai lieutenant de l'armée n'a pas le droit de s'égarer. Je viens d'arriver, cours du rapport plein de sueur. Je pète un garde à vous correct avant la montée des couleurs. Je dis bonjour aux potes, quelques vannes on se provoque. Salutations comme l'il se doit au grade des autres pilotes. On est réunis autour de généraux, les ordres sont précis et le secret est au top niveau. Quelques heures après, je signe la fin de la réunion. Et maintenant, je sais quel est vraiment mon ordre de mission. On m'a parlé de patrie, de fierté, de mon sac, d'un bon devoir accompli. Et cet avion décolle. Je suis sûr d'être un type bien, un véritable puritain, un patriote américain. L'État a fait de moi un homme, pas un pointeur. On m'a seulement appris à faire le bien. Je suis sûr d'être un type bien, un véritable puritain, un patriote américain. L'État a fait de moi un homme, pas un pantin. On m'a seulement appris à faire le bien, faire le bien. Et dans cet avion, pour le moment, là tout va bien. Il n'y a pas de tension, notre objectif est encore loin. Chacun est placé correctement, prêt à son poste. Même les ingénieurs ne pensent pas qu'il y aura riposte. Les tout derniers réglages, dernière vérification.
Si on se place, disons, d'un point de vue presque plus fonctionnel, plus précis, à échelle plus fine, il y a aussi quand on a cet objectif de précision, cet objectif vraiment de faire aussi peu de victimes que possible, il y a aussi une corollaire opérationnelle que vous relevez, que vous détaillez largement, qui est que ce genre de bombe, ça implique pour les aviateurs de se rapprocher dans une certaine mesure de leur cible, c'est-à-dire de voler moins haut concrètement. Donc il y a l'idée qu'il faudrait que l'aviateur en quelque sorte se mette plus en danger pour risquer de faire moins de victimes civiles, enfin en tout cas moins de victimes collatérales, ce qui pour le coup est un pur arbitrage et dilemme éthique au sens propre, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se faire soi-même se mettre plus en danger pour faire porter moins de risques aux autres. Donc, en quelque sorte, comment est-ce qu'on se dépêtre de ce dilemme-là? Comment est-ce qu'il est arbitré d'une manière générale? Et quelle direction ça prend? C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu des directives à certains moments qui étaient très claires sur les risques qu'on pouvait faire porter ou pas aux aviateurs en termes d'altitude de vol. Et comment est-ce que ça évolue tout ça?
Oui, alors ce que vous évoquez sans doute, c'est quelque chose qui s'est passé pendant le Kosovo, où le président Chirac souhaitait faire descendre les aviateurs à une certaine hauteur, et l'état-major s'y était opposé parce que c'était une prise de risque supplémentaire. Mais les armes qu'on larguait à l'époque ne sont pas les mêmes que celles qu'on largue aujourd'hui. Et parfois, on peut considérer que plus on se rapproche, plus on va être performant, donc moins on va avoir de dommages collatéraux. Et donc on aurait tendance à dire, eh bien, il faut le faire, et tant pis si les pilotes prennent des risques. En pratique, c'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où les systèmes d'armes aujourd'hui ont des zooms qui sont plus performants, et puis souvent il est plus, on est plus serein. Je parle du pilote dans son cockpit, on est plus serein quand on est en moyenne altitude, en tout cas, donc plus loin du sol et où on prend moins de risques personnellement pour analyser la mission, pour analyser la frappe et pour conduire la frappe la plus performante et la plus précise possible. Donc il ne suffit pas de se dire de partir un peu bille en tête en disant je me rapproche, je prends des risques parce que c'est bien de faire comme ça, parce qu'en pratique ça peut largement être contre-productif. Mais ça nous, ça m'évoque le débat un peu plus large que vous avez très bien souligné, c'est de dire est-ce que dans l'éthique militaire, il faut impérativement que les deux combattants qui s'opposent prennent tous les deux un risque, et est-ce que c'est éthique justement de se dire qu'il faut un risque, parce que s'il n'y a pas de risque pour les deux, il y a un déséquilibre, et donc ça pose un problème éthique.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment, on l'a esquissé tout à l'heure, mais c'est vraiment, on entre dans le problème qui est, je pense, central, qui est celui de la dissymétrie des risques, à savoir le fait qu'il faudrait que l'aviateur se mette en danger, et que concrètement il se met somme toute assez peu en danger dans l'absolu. Alors ça n'a pas toujours été le cas, évidemment. C'est par ailleurs toujours dangereux de monter dans un truc qui vole, spécialement en situation de conflit avec des gens qui tirent dessus. Mais fonctionnellement, on ne peut pas dire que c'est faux. Enfin, depuis quelques décennies, les incidents sont très rares rapportés au nombre de vols et d'aviateurs. Donc c'est un risque plus métaphysique que statistique, en quelque sorte, pour l'aviateur. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en fait de ça, c'est-à-dire de ces soldats qui engagent, mais qui ne risquent pas concrètement leur corps, en quelque sorte, dans le combat?
Alors moi, je répondrais en deux temps à votre question, ou plutôt sous deux axes. Le premier, c'est que je pense que pour être tout à fait honnête, il faut bien prendre ce problème de manière plus large. Ça ne concerne pas que l'armée aérienne. En fait, on a tendance à dire aujourd'hui, de manière très, très simplifiée, les drones, par exemple, ou même les avions de chasse interviennent à distance, on ne fait pas prendre de risques. Mais il faut quand même se rappeler que c'est le but de la stratégie militaire depuis Sun Tzu. L'idée, c'est quand même de produire des effets en réduisant les inconvénients qu'on en retire soi-même. Donc, je cite dans le livre la Saris macédonienne, par exemple, qui était une lance qui faisait 7 mètres de long, qui permettait de porter un coup à l'adversaire sans soi-même s'opposer. Les fusils de précision, c'est pareil. Les lance-roquettes, les portées des lance-roquettes sont énormes. Enfin, je veux dire, toutes les composantes militaires sont concernées par cette mise à distance. On a très rapidement l'image du soldat d'infanterie qui va ou des armes de mêlée, mais malgré tout, c'est plus la réalité de la guerre. En tout cas, c'est plus la réalité principale de la guerre aujourd'hui. Ça, je dirais, c'est le premier temps de la réponse. Le deuxième temps de la réponse, si on essaie de prendre un petit peu de recul théorique, et je voulais juste vous rappeler que dans l'éthique, en fait, il y a deux manières de raisonner quand on est face à un dilemme éthique. Je taille un peu dans les virages, mais il y a la manière conséquentialiste et la manière déontologique. Alors c'est des mots un peu barbares, mais dans un des deux cas, en gros, c'est de dire je ne me comporterai pas de telle manière, tout simplement parce que c'est éthiquement interdit. Donc je me freine, quelles que soient les conséquences de ce que je vais faire, je choisis de ne pas faire ça. Et les conséquences...
L'interdit moral est dans le processus.
C'est tout à fait un impératif catégorique hérité de la tradition kantienne. Enfin, voilà,
c'est la manière déontologique, c'est-à-dire c'est les limites qu'on se pose, c'est les limites dans le processus, et on ne juge pas à l'aune des conséquences, on juge à la manière dont on a fait les choses.
Voilà, très simplement, c'est le fameux « tu ne tueras point, quoi qu'il arrive ». « Tu ne tueras point », c'est un impératif qu'on ne voudra pas dépasser. L'autre manière de raisonner, c'est donc la manière conséquentialiste, c'est de réfléchir à la conséquence de ses propres actes. Pour vulgariser un petit peu le problème, c'est parfois, tuer quelqu'un peut avoir pour conséquence de sauver 1000 personnes, par exemple. Quelqu'un qui aurait une bombe et qui s'apprêterait à faire sauter 1000 personnes dans un supermarché, bon, si on arrive à le tuer avant, c'est pas bien de tuer quelqu'un, pour autant, ça sauve 1000 personnes. Donc, je reviens à la question qui m'est posée sur la distanciation. La question, c'est pas tant de savoir est-ce que, de manière, j'allais dire, déontologique, il faut prendre des risques aussi parce que c'est bien, c'est éthique de le faire. Non, l'éthique, c'est de se dire pourquoi est-ce que je prendrais des risques? Si je prends des risques parce qu'il y a un intérêt à prendre des risques, eh bien, il faut pas évidemment s'en priver. Maintenant, s'il n'y a pas d'intérêt à prendre des risques et qu'on peut être tout aussi performant sans soi-même avoir un inconvénient, c'est quand même pas idiot de réfléchir comme ça.
Ouais, mais c'est très intéressant aussi, parce que je crois que, alors vous me direz aussi dans quelle mesure, mais je crois qu'il y a aussi un truc entre les armées là-dessus, qui est pas... Enfin, c'est-à-dire souvent je reçois au micro des soldats qui mentionnent, mais souvent en passant, le fait que c'est la possibilité de recevoir la mort qui fait le soldat. Qu'il différencie de l'assassin ou du bourreau. Alors, il y en a qui ont été diffusés, il y en a d'autres que j'ai encore en stock. Enfin bon, c'est quelque chose que souvent, j'ai des interlocuteurs qui me le disent quand ils sont militaires. Et même vous, d'ailleurs, vous relevez un passage où le CEMA, donc le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, dit exactement ça, très précisément. Et moi, ça me fait toujours tiquer, parce que je trouve ça profondément faux, et effectivement, comme vous l'avez dit, ça va contre tout le mouvement d'évolution de la guerre, qui est au contraire de protéger les soldats, et de les éloigner du danger, vraiment depuis l'apparition de l'arc, de la fronde, ou de la lance, puisque c'est ce que vous avez retenu. Et si on pense que c'est vraiment la possibilité de la mort qui fait le soldat, ben autant y aller tout nu et à main nue, et on sera aussi un super soldat, quoi. C'est donc vraiment, je pense qu'il y a un truc qui est profondément faux là-dedans, mais qui est très profondément aussi ancré, peut-être dans certaines armes, ou dans certaines pratiques de la guerre, ou dans certaines unités, certaines philosophies, parce qu'il y a des cultures qui sont transmises et qui sont pas les mêmes selon les armées, selon les armes. Donc voilà, comment est-ce qu'on se dépêtre de ça? Est-ce que c'est justement, ou est-ce que vous pensez aussi qu'il y a cette espèce d'éthique et de conception de ce qu'est le soldat qui est légèrement différente selon les parcours? Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette idée que c'est quand même ce risqué qui fait le soldat?
Alors, je me garderais bien de parler à la place du chef d'état-major des armées, mais je pense que, enfin, j'interprète pas tout à fait ces propos de la même manière. Pour avoir assisté notamment à un discours inaugural pour une promotion de l'école de guerre, la manière dont je l'ai compris, c'est que pour lui, le militaire a un statut particulier, une singularité du militaire qui est héritée de deux choses. La première, c'est que effectivement, il peut risquer sa vie dans l'accomplissement de sa mission. Donc ça, c'est indéniable. Mais pour autant, il nuance rapidement en disant que c'est pas la seule profession qui est concernée par ça. On peut penser à tout un tas de professions, les policiers, les pompiers, enfin bref, je rentrerai pas là-dedans. Mais le deuxième aspect qui fait vraiment la singularité, c'est là-dessus qu'il insiste, de ce que j'en comprends en tout cas, c'est le fait que le militaire, lui, donne la mort. Et c'est surtout ça qui fait la singularité du militaire. C'est pas tellement de risquer sa vie, de risquer de perdre la vie. C'est d'avoir à prendre la décision d'ôter la vie de quelqu'un, donner cet ordre à quelqu'un d'autre, enfin à un de ses subordonnés, ou à l'exécuter soi-même. Et c'est ça qui fait vraiment la singularité du militaire, parce que c'est quelqu'un que la société a choisi pour à qui on a donné des prérogatives particulières.
D'accord, mais on n'est pas obligé de rester sur les propos du général. Enfin, Lecointre, le plus simple, ce serait effectivement de toute façon de lui demander. Mais disons, cette idée de la réciprocité, ou en tout cas de la réciprocité possible, l'idée que quand on s'engage en tant que vecteur potentiel de la mort, il faut être capable de pouvoir la recevoir. En tout cas, il faut que ce soit une possibilité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette chose-là?
Ouais, c'est une possibilité. Ça fait partie. C'est écrit d'ailleurs dans le.
Mais c'est pas une possibilité pour tout le monde.
Dans le cadre de son métier, c'est pas une possibilité pour tout le monde.
Non, mais c'est pas une possibilité pour tous les militaires, ni pour tous ceux qui donnent la mort. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir. Enfin, ce que je veux dire, c'est par exemple, ce qui est intéressant, c'est que c'est poussé à l'extrême, typiquement avec les drones, avec la question des drones, qui ont été beaucoup critiqués, alors avec des critiques que je trouve très très discutables, à titre très personnel, mais que ce serait l'arme du lâche, une rupture sans précédent dans l'art de la guerre, au sens où le pilote est absent. Et donc voilà, c'est quand même une idée qui est très profondément contenue, notamment dans un discours critique sur la chose militaire, cette idée que la mort qui est donnée et qui ne pourrait pas être reçue, ça fait une rupture ou ça pose un problème éthique réel.
Ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi en fait ça poserait vraiment un problème. Moi, je pense que ça pose pas un problème éthique fondamental. Ce qui poserait un problème éthique, c'est la manière dont les drones seraient utilisés. Mais ne pas prendre soi-même un risque, alors qu'on peut, sans prendre de risque, infliger des dommages à quelqu'un dans une confrontation armée, et qui par ailleurs s'inscrit dans un tout, c'est-à-dire qu'on ne conduit pas des opérations uniquement avec des drones aujourd'hui, donc il y a toujours des soldats d'une coalition ou d'une nation qui prennent des risques, donc ça fait partie, c'est une des utilisations qui est faite. Et je reviens sur l'exemple du lance-roquette ou de l'artillerie qui tire à distance, eh bien aujourd'hui c'est la manière dont on fait la guerre. Et je pense, à titre personnel, que c'est une bonne chose de préserver la vie des militaires. C'est également une réflexion éthique que de se dire je ne fais pas prendre des risques inutiles à mes propres ressortissants.
Oui, et je peux aller totalement dans le même sens si on considère que, d'une part, il n'y a pas que les opérateurs de drones qui prennent pas beaucoup de risques. On a déjà dit les aviateurs concrètement ont peu d'incidents, mais même on peut dire, je sais pas, par exemple l'équipage d'un char Leclerc concrètement depuis quelques décennies risque pas énormément sa vie, ou celui d'une frégate anti-sous-marine non plus concrètement depuis quelques décennies, c'est pas des fonctions en tout cas qui sont très soumises à la perte de vie, c'est-à-dire à des attaques mortelles. Mais je vais quand même vous pousser là-dessus, puisque c'est quand même, on peut être d'accord tout à fait là-dessus sur cette partie-là du problème, mais c'est quelque chose qui est présent notamment chez les soldats eux-mêmes, chez les militaires eux-mêmes, puisque vous relevez une histoire que je connaissais pas, qui est intéressante, qui est le fait que l'armée américaine, et notamment l'Air Force américaine, avait décidé en 2013 de créer une médaille pour les opérateurs de drones, donc qui s'appelait la Distinguished Warfare Medal, qui assez rapidement a été surnommée, notamment par les vétérans, mais aussi par les autres militaires de l'Air Force, la médaille Nintendo, et qui a donc dû être retirée, enfin on a dû arrêter de la décerner, quoi, avec l'idée que une médaille accordée à quelqu'un qui opère depuis son écran, c'est-à-dire depuis, en l'occurrence, le Nevada ou le Texas ou l'Arizona pour les militaires américains, ça valait pas exactement la même chose qu'une médaille qu'on accorderait à un aviateur. C'est donc qu'il y a quand même, si ce n'est quelque chose de métaphysique, puisqu'on peut s'accorder sur le fait qu'il faut déconstruire ça, et en tout cas un truc sur l'idée que le mérite est quand même, dans une certaine mesure, forcément connecté à la prise de risque personnelle, parce que, de toute évidence, donner une médaille à des gens qui s'engagent pas, qui n'engagent pas personnellement leur survie, ça fait tiquer dans les armées.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit la population civile ou l'opinion publique qui ait cette vision des choses. Et là, en l'occurrence, c'est une association de vétérans ou des associations de vétérans de soldats américains qui ont été à l'origine de cette polémique. Et d'ailleurs, pour être tout à fait exact, je crois que ce qui était reproché, c'était l'ordre protocolaire de cette décoration. C'est-à-dire qu'elle était considérée comme assez importante, plus importante que d'autres, reçue par des soldats qui avaient pris directement des risques. Donc effectivement, je pense qu'au sein de l'appareil militaire, là en l'occurrence américain, mais ça peut être vrai dans d'autres nations, il y a cette forme de hiérarchie un petit peu dans la prise de risque dans l'héroïsme quelque part du combattant. Pour reprendre l'exemple des drones, ce qui est intéressant, c'est que l'US Air Force américaine donc choisit de piloter ses drones à distance depuis le territoire américain, là où l'US Army pilote ses drones depuis les têtes d'opération. Et si vous regardez ce qui se passe en France,
oui, c'est ça, j'allais dire ça.
Voilà, si vous regardez ce qui se passe en France, c'est pas un secret pour personne, c'est les cabines de drones sont sur les têtes d'opération et sont pas en métropole, alors même que technologiquement ce serait possible. Et le choix qui est fait, bon, y a tout un tas de raisons derrière.
Mais on peut mentionner, surtout... on avait fait un truc, avait un podcast avec Christophe, Christophe Fontaine là-dessus. Il y a aussi un truc très fonctionnel qui est que l'US Army a des drones littéralement partout dans le monde, notamment des drones mâles, donc moyenne altitude, longue distance, mais vraiment dans une infinité d'endroits. Donc c'est difficile de projeter à chaque fois des personnels sur chacun des endroits où il y a un drone.
L'US Air Force.
Oui, l'US Air Force, pardon. Voilà, donc c'est difficile de projeter à chaque fois les équipages sur tous les territoires, parce qu'il y a vraiment à peu près tout le globe qui est couvert par les drones de l'US Air Force. Mais quand même, clairement, ça pose une question, puisque les opérateurs de drones qui sont sur des théâtres peuvent être ciblés, le cas échéant, parce que personne, quand on est sur un théâtre extérieur, on n'est jamais vraiment à l'abri. Dans le Nevada, c'est plus compliqué quand même.
Oui, tout à fait. Alors ça, il y a effectivement ce côté prise de risque. Ce qui préside aussi à la décision, c'est de se mettre un petit peu... Enfin, c'est des aspects psychologiques du combattant, en l'occurrence de l'opérateur de drone. Et c'est valable aussi pour les pilotes de chasse, on pourrait y revenir, mais à partir du moment où on opère depuis la métropole et où on décolle le matin pour une mission réelle et puis qu'on se repose le soir et qu'on retourne schématiquement dans sa famille, serrer ses enfants dans les bras, il y a une distorsion entre la vie réelle, temps de paix, je dirais, à laquelle on est habitué, et la vie temps de guerre, avec toutes pas forcément les atrocités, mais les difficultés, j'allais dire, que ça comporte. Encore une fois, je ne suis pas non plus psychologue, mais il est de notoriété publique que l'esprit s'adapte au milieu dans lequel il est, et donc on est plus, si ce n'est plus efficace, en tout cas, quand on est en opération, on est conditionné par l'opération à laquelle on participe, et donc c'est plus facile, plus évident, plus naturel, je dirais, de conduire des actions de guerre que quand on était juste avant dans un milieu qui n'a rien à voir. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ce qui veut dire que quand on a le choix de le faire, eh bien c'est pas forcément idiot. En tout cas, c'est un critère qui milite pour rapprocher de la zone d'action et de la zone de combat les opérateurs.
Mais c'est intéressant parce que c'est un truc que j'avais pas vraiment entendu. C'est la grande critique qu'on fait aux opérateurs de drones. C'est la grande critique d'un film comme par exemple Good Kill, qui est un film qui est montré ça très vivement. C'est l'idée que voilà, on peut pas rentrer chez soi le soir. Et on peut pas passer la journée en tout cas par la vue et par l'esprit au-dessus de l'Irak ou de l'Afghanistan et rentrer chez soi le soir. Donc ça, c'est une critique qui est bien connue pour les opérateurs de drones. Ce que vous nous dites, c'est que s'il se passe des trucs potentiellement un peu similaires pour des pilotes très physiques qui simplement, en fait, quand ils sont basés sur le territoire national, peuvent avoir le même genre de problématiques et le même genre de troubles, quoi.
Tout à fait. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Et d'ailleurs, l'armée de l'air considère que les bases aériennes métropolitaines sont un véritable outil de combat, et donc ça fait partie de la stratégie de l'armée de l'air française de pouvoir décoller depuis la métropole pour produire des effets à distance. Et donc il faut surtout pas s'en priver. Pour autant, d'autres critères peuvent également être pris en compte en fonction du conflit, en fonction de l'intervention, et peuvent militer à projeter au plus près des combats les opérateurs, que ce soit les pilotes de chasse, d'hélicoptères, d'avions, voire même je dirais le personnel qui est, j'aime pas beaucoup ce mot, mais en soutien. Je pense aux mécaniciens, je pense à tout un tas de gens qui œuvrent pour que la puissance aérienne, puisque c'est ça dont on parle, puisse être délivrée. Et tous ces gens-là, pareil, même s'ils sont moins directement impliqués dans les combats, dans les affrontements, eh bien, ils sont quand même, ils participent à la mission, ils le savent, ils en ont conscience, ils sont impliqués dedans, et eux aussi, alors même qu'ils n'ont pas des fonctions, je dirais, directement dans la délivrance du feu, eh bien, il est intéressant de les embarquer quand même pas dans l'état d'esprit, mais dans l'ambiance, en fait, en opération.
Ouais, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment l'occasion de le préciser, que je pense vraiment que c'est un truc très problématique dans le discours, cette idée que on serait sorti de la guerre à la loyale, de la guerre quand on la faisait entre hommes, quoi, c'est-à-dire où il y a vraiment, je trouve, un idéal un peu rétrograde et très presque chevaleresque là-dedans. Et c'est une philosophie sous-jacente qui est portée par Notamment, il y a eu un livre très connu là-dessus, qui est La théorie du drone de Grégoire Chamaillou au début des années 2010, qui en a beaucoup parlé, qui a beaucoup cristallisé ce genre de réflexion sur l'idée que, voilà, une fois, maintenant qu'on faisait la guerre à distance, on faisait plus vraiment la guerre. Et je profite de cette occasion, je profite du fait qu'on en parle, pour dire que je trouve ça vraiment très très problématique, cette idée qu'il y aurait une bonne manière de faire la guerre, bien à l'ancienne, bien à la loyale, et que aujourd'hui on serait déshumanisé par rapport à ça. Au sens où je pense qu'on peut quand même s'accorder pour dire que faire la guerre et tuer des gens, c'est pas souhaitable, et que tout ce qui peut réduire les victimes d'une part ou d'autre, en tout cas les victimes les non souhaitées, c'est quand même très très positif. Voilà, c'était mon incise, et je profite de votre ouvrage et de notre discussion pour le préciser, quoi.
Mais c'est surtout qu'on se focalise beaucoup sur cette dissymétrie ou sur cette distanciation qui est impliqué par les drones armés. Bon, déjà, les drones, c'est pas uniquement des drones armés. Il y a évidemment tout le volet renseignement et le volet imagerie, notamment qui est très intéressant avec le drone.
Et pareil, on peut préciser, si on parle à des pilotes de drones et si on parle à des gens, notamment qui sont reconvertis depuis l'avion de chasse par rapport aux drones, ils ont un niveau de proximité avec ce qu'ils observent et leur cible qui est sans commune mesure avec ce qu'ils avaient avant, au sens où les drones, c'est la permanence, et un pilote de drone observe toute la journée. Enfin, pas toute la journée, mais en tout cas sur des très longs temps, ce qui va frapper éventuellement. Et ça, on ne peut pas dire que c'est une déshumanisation. Au contraire, c'est une très forte humanisation de ce qu'on va faire, quoi.
C'est là où je voulais en venir, c'est que quand on tient ce genre de propos, c'est qu'on méconnaît la manière dont sont conduites les opérations conduites par des drones armés ou non, d'ailleurs, mais en l'occurrence par des drones armés. Et c'est effectivement plusieurs personnes qui sont derrière une console, qui voient sur un écran des choses à tête reposée, qui ont le temps d'analyser exactement la situation, qui ne sont pas pressés soit par la situation, le stress opérationnel d'un avion en l'air, qui regardent pas dans un écran qui fait 5 cm ou 10 cm par 10 cm, c'est-à-dire tout petit avec une très mauvaise résolution, parce que c'était le cas encore il n'y a pas longtemps. Alors, évidemment, la technologie évolue, mais il faut pas être grand clair pour comprendre que c'est plus facile d'analyser une situation clairement au sol sur un écran qui est plus grand et avec tout un tas de moyens que dans un avion en haute altitude, en ayant en plus à assurer le pilotage, la gestion du carburant, des pannes, ainsi de suite. Donc moi je pense, je suis fondamentalement convaincu que l'analyse qui est faite et in fine du coup la décision qui est prise d'engager ou non, de délivrer ou non une arme, est meilleure, en tout cas présente tout un tas d'avantages quand elle est faite à partir de drones. Ça ne remplace pas, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, ça ne remplace pas l'aviation pilotée depuis l'avion, parce que, on pourra en reparler aussi, mais avant on parlait les Anglais parlaient d'UAV, donc c'était des véhicules unmanned vehicles avant. Maintenant on parle plutôt de véhicules pilotés à distance. Donc, en fait, la sémantique est intéressante parce que, en fait, on a tendance à considérer que les drones ne sont pas pilotés. En fait, c'est une erreur. Les drones sont pilotés de la manière qu'un avion est piloté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'humain est au cœur du dispositif. Alors certes, il ne prend pas le risque, mais il est présent et c'est fondamental.
Alors tant qu'on y est, ça peut permettre de, je sais pas, de dissiper, je sais pas si ça convaincra les gens, mais en tout cas de parler de cette problématique qui je pense est tout aussi de cette question qui, je pense, est tout aussi problématique des robots tueurs, des systèmes d'armes létaux autonomes, c'est-à-dire de l'idée que les drones, etc., pourraient à terme remplacer l'humain, qu'on aurait des robots tueurs dans les airs qui menaceraient les populations, etc. Ce qui est le fantasme quasiment mécaniquement suivant le fait qu'il y a un drone sans personne à l'intérieur, on pense qu'il y a personne qui le dirige. On peut simplement préciser, je vais vous laisser en parler, mais que c'est, en tout cas, en l'état actuel des choses et dans un futur très prévisible, non seulement ça n'existe pas, mais ça n'intéresse personne d'avoir des robots tueurs qui peuvent prendre eux-mêmes la décision de frapper des cibles, au sens où c'est pas du tout au point, ce serait des dommages collatéraux colossaux, c'est beaucoup trop risqué par rapport au gain potentiel que ça pourrait être, qui serait extrêmement minime.
Alors effectivement, vous l'avez évoqué, il y a une grosse confusion sur ces questions-là. On a tendance à tout assimiler, que ce soit le drone tout court, le drone armé, ou éventuellement ce qu'on appelle les robots tueurs ou les systèmes d'armes létaux autonomes. L'acronyme utilisé, c'est SALA, pour système d'armes létaux autonomes. Bon, déjà, ce sont des choses très différentes. Et je suis pas complètement d'accord avec vous, en revanche, sur le fait que ça n'existe pas ou que personne ou que tout le monde ne veuille pas aller dans cette direction, dans la mesure où déjà il y a des choses qui existent, alors pas en volante, mais il y a par exemple pour des boucliers antimissiles, ce genre de choses, compte tenu des délais de réactivité qui sont imposés pour pouvoir se prémunir d'un missile qui viendrait tomber sur une ville, les Américains ou les Israéliens notamment développent des systèmes qui tirent, où la décision de tir, de mise à feu, est automatisée. Donc ça, aujourd'hui, ça existe.
C'est pas exactement la même chose.
Non, c'est pas exactement la même chose.
De faire ça avec un truc offensif.
Puisque là, on tire sur un missile qui arriverait, donc c'est pas pareil.
Là où je veux dire que ça n'intéresse personne, ce que je veux dire, ça n'intéresse, en tout cas, j'espère bien, à l'heure actuelle, personne, de pouvoir déléguer la bavure à un robot qu'on ne contrôlerait pas.
Alors, encore une fois, il y a des systèmes de valeurs qui sont différents. Je pense que dans les armées occidentales, aujourd'hui, on en est très loin. D'autres armées n'ont pas les mêmes scrupules, je pense, sur ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la ministre des Armées avait créé un comité d'éthique de la défense en janvier 2020, pardon. Et elle avait fixé deux chantiers pour l'équipe qui avait été désignée. Le premier, c'était sur le soldat augmenté, donc les travaux ont été rendus au milieu de l'année dernière, je crois, ou en septembre. Et le deuxième chantier, qui est toujours en cours à ma connaissance, c'est sur les systèmes d'armes létaux autonomes, justement. Et la préoccupation de la ministre, est légitime, c'est de se dire c'est quelque chose qui pourrait arriver dans un futur à déterminer, plus ou moins proche, qui n'est manifestement pas ce dont nous souhaiterions nous doter. Pour autant, ça risque de représenter une menace, donc on ne peut pas faire l'économie de la réflexion sur ce sujet, et d'ailleurs ça a été annoncé par la ministre, le fait que la France ne confiera jamais la décision de l'ouverture du feu de manière complètement autonome. C'est-à-dire que je ne sais pas sur quoi aboutiront les travaux in fine, mais il est fort probable que ça aboutisse sur le fait qu'on pourra intégrer une part d'autonomie, et il est souhaitable d'intégrer une part d'autonomie à nos systèmes d'armes, parce qu'on gagne en efficacité, en puissance de calcul, on peut se servir de l'intelligence artificielle, enfin, il y a plein d'opportunités qui augmenteront la performance de l'outil, mais pour autant, il y a des lignes rouges qui, à mon avis, resteront toujours, c'est de dire l'humain devra rester au cœur de la décision de l'ouverture du feu. Et je ne suis pas certain, pour répondre totalement à la question, que toutes les armées voient les choses de cette manière-là.
Bien sûr, j'entends, mais je me pose la question. Enfin, c'est-à-dire, c'est toujours... c'est très très inconcevable, en tout cas dans l'état de la doctrine et de la manière dont on réfléchit dans les armées occidentales, à la manière de délivrer le feu. Par ailleurs, ça n'engage que moi, hein, mais je suis toujours un peu sceptique sur l'idée que les autres puissances auraient des réflexions si orthogonales et si différentes. Je suis pas certain que les motivations et les... disons, ce qui se passerait si c'était le cas soit perçu de manière... on prête toujours le pire facilement à la Chine ou à la Russie ou à n'importe qui. Je suis pas sûr que la réflexion tactique et stratégique puisse être si différente. Même chez eux, c'est pas parce qu'on n'y a pas accès qu'ils n'ont pas forcément des réflexions similaires. Mais cela dit, on peut, pour rester une seconde sur cette question de l'autonomie, effectivement, c'est une question importante, d'autant qu'on peut mentionner que c'est-à-dire, on a cette distinction très nette aujourd'hui entre drones et avions, enfin entre drones et en tout cas engins pilotés sur place, quoi. On peut préciser que c'est une distinction qui a vocation, en tout cas c'est les perspectives du moment, à s'effacer, puisque le système de combat aérien futur, c'est-à-dire les successeurs du Rafale, lointains, mais les successeurs du Rafale un jour, donc les avions de sixième génération, même s'il y a toujours un problème avec ces dénominations, parce qu'elles viennent des États-Unis, c'est l'idée que c'est des engins qui fonctionneraient avec des drones, en système avec des drones, avec ce qu'on appelle des effecteurs déportés, c'est-à-dire il y aurait un avion, il y aurait plein de choses autour de l'avion, une sorte d'essaim de drone qui pourrait délivrer le feu ou pas. Donc on mesure à la fois le niveau d'autonomie qu'il y a besoin et d'automatisation, puisque évidemment un pilote déjà ne pourra pas piloter 2, 3, 5 drones en même temps qu'il pilote son avion, mais en même temps, ça ne veut pas dire que ça changera fondamentalement les choses, au sens où, ben, au sein de cet essaim de vecteurs, il y a toujours quand même, en tout cas on perçoit toujours la nécessité qu'il y ait un humain quelque part proche, quoi.
Oui, tout à fait. Alors pour la petite histoire, j'ai cru comprendre que pendant les premières réflexions sur le système de combat aérien du futur, se posait la question de savoir si le Next Generation Fighter, donc l'avion de chasse qui sera au centre du système, serait piloté ou non, parce qu'il était à mon avis sain de se poser la question, et la décision a été de dire, dans l'état actuel des choses, il faut maintenir un pilote au cœur du dispositif dans cet avion-là, parce que pour tout un tas de raisons, les technologies n'étant soit pas mature, soit ou plutôt d'ailleurs en se disant on pense que l'humain doit encore avoir sa place, en tout cas à cet endroit-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être déléguées, je dirais, ou des formes d'autonomie qui peuvent être confiées à d'autres systèmes, mais on souhaite maintenir l'humain au cœur du SCAF, donc dans l'avion qui est au cœur de ce système. Pour autant, les autres systèmes qui sont liés au SCAF ne seront pas des robots tueurs. Enfin, il ne s'agit pas de ça. Ce sera sans doute des... Enfin, d'ailleurs, je ne connais pas ce programme particulièrement bien, hein, mais en tout cas, tout ce qui
est... Vous pouvez préciser que vous êtes pilote d'hélicoptère.
Déjà,
vous
je suis pilote d'hélicoptère. Vous
n'êtes pas exactement au centre du programme voilà, SCAF. Pour
tout à fait. Donc d'autres seraient bien plus qualifiés que moi pour en parler. Mais pour autant, le but, c'est bien de créer un petit peu de masse pour que si certaines choses ne passent pas, je dirais, dans des contextes d'espace aérien qui nous seraient déniés, eh bien, pouvoir avoir des choses qui sont peu coûteuses, en tout cas, notamment en termes humains, qui pourraient être détruites ou qui pourraient ne pas passer la menace adverse, pour que les systèmes, encore avec des humains à l'intérieur, eux, ne soient pas touchés. C'est un peu l'idée qui est derrière. Je simplifie énormément, hein, mais...
Ouais, mais alors, simplement pour essayer de recentrer la chose, et pour terminer, alors on voit, là, on est parti dans la technique, mais évidemment, c'est absolument pas séparé, puisque c'est ce que la technique permet, aussi pose les conditions de base du débat éthique qui est à l'intérieur. Mais si, en quelque sorte, pour résumer, pour faire un zoom arrière, on a bien compris toutes ces perspectives éthiques, mais c'est des perspectives éthiques qui sont nécessaires, notamment parce que, pour plein de raisons, mais le combat aérien, en tout cas l'action de l'arme aérienne, est pas si réglementée que ça, en tout cas hors des textes très généraux type Convention de Genève, qui régissent globalement le droit de la guerre, mais il n'y a pas vraiment de textes internationaux, il n'y a pas vraiment de règlement très précis sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec l'arme aérienne. Donc en quelque sorte, pour résumer toute cette réflexion, mais j'invite évidemment à aller voir le livre où elle est bien plus développée qu'on ne pourra jamais le faire en une discussion d'une heure et quelques, est-ce que vous pourriez, pas nous proposer, mais en tout cas résumer, en tout cas quelques grands principes, quelques, pas un vade-mecum, mais en tout cas quelques grands piliers, selon vous, des piliers éthiques de l'arme aérienne et de ceux et celles évidemment qui sont voués à l'utiliser et donc à qui ont entre les mains cette possibilité de porter la mort depuis les airs.
Alors ce que vous avez bien très bien résumé, c'est qu'effectivement la guerre aérienne en soi est très peu réglementée au niveau juridique, pour tout un tas de raisons qui seraient un peu longues à développer, mais principalement parce que les États n'ont pas réussi à s'accorder, notamment dans les années 20, et puis du coup ça n'a jamais été codifié réellement derrière. On extrapole, on fait du droit comparé, c'est-à-dire que ce qui s'applique pour d'autres composantes, mais on considère que ça s'applique aussi pour la guerre aérienne, mais c'est pas aussi simple que ça au niveau juridique. Donc d'où l'intérêt justement de ces réflexions éthiques qui viennent, qui sont là pour prendre un propos de la ministre, quand le droit est, quand en absence de droit, et bien c'est l'éthique qui dicte la conduite. Et d'ailleurs, je dirais, même quand il y a du droit, l'éthique peut intervenir, hein, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, quand il y a pas de, quand c'est pas codifié, ben c'est tout l'intérêt d'avoir une réflexion éthique. Pour répondre à la question sur les l'éthique de la guerre aérienne, en fait, elle est pas tellement spécifique. Enfin, comment dire, c'est les mêmes principes fondamentaux que ceux de l'éthique de la guerre. Sans rentrer trop dans la théorie, mais ça a été théorisé. Donc, l'éthique de, enfin, c'est la théorie de la guerre juste qui est héritée de Thomas d'Aquin, qui est hérité de l'école de Salamanque plus tard. Enfin bref, il y a eu beaucoup de gens qui sont Saint-Augustin qui ont réfléchi à ces questions, mais là ça a été formalisé assez récemment par Michael Walzer, donc un philosophe américain assez connu, et qui lui a donc résumé le jus ad bellum, le jus in bello et le jus post bellum, qui sont en fait les règles éthiques. Jus veut dire droit, mais ça veut également dire, enfin, règles éthiques, donc en l'occurrence au sens éthique du terme jus, pour déclencher les hostilités, pendant les hostilités et après les hostilités, pour faire très simple. Et donc, pour répondre à votre question, c'est le jus in bello qui intervient là-dedans, et c'est des principes très connus de discrimination entre les combattants et les non-combattants, de proportionnalité, de nécessité militaire, enfin, tous ces principes-là qui sont fondamentaux, qui sont repris d'ailleurs dans le droit des conflits armés, et qui sont sous-jacents à la réflexion éthique de la puissance aérienne.
Ouais, mais il y a aussi une particularité que vous relevez d'ailleurs largement dans le livre, qui est qu'un pilote dans son avion, enfin en tout cas dans son vecteur aérien, a un degré d'autonomie qui est assez rare à l'échelle des armées, à l'échelle de la profession militaire. C'est-à-dire aussi bien... Alors, il y a plein de formes d'autonomie toujours à différents niveaux, mais en tout cas, un pilote a de la distance à la fois physique et matérielle avec les ordres qui lui sont donnés, et donc a une capacité... en quelque sorte, à les reformuler, à les interpréter en fonction de la situation, qui n'est pas si fréquent quand on compare à beaucoup des situations de l'armée de terre ou de la marine. Donc qu'est-ce qu'on fait en quelque sorte de cette autonomie physique, mais qui est aussi forcément donc une autonomie morale et éthique, de l'aviateur, et comment est-ce qu'elle tord ou peut modifier le cadre plus général des ordres qui sont donnés?
Il y a effectivement une forme d'isolement de l'aviateur ou des aviateurs qui, dans des situations d'ouverture du feu, si on prend l'exemple, j'allais dire, un peu emblématique d'ouverture du feu nucléaire, où en gros, dans un aéronef, deux membres d'équipage, voire un parfois, en fonction des composantes, eh bien, vont avoir à déclencher l'arme nucléaire. Évidemment, il faut garder quand même à l'esprit que ça s'inscrit dans un processus bien plus large, avec toute une chaîne de déclenchement d'ordre. Mais malgré tout, à la toute fin, c'est un opérateur, seul ou à deux, qui va appuyer sur un bouton pour délivrer une puissance très importante. Et ça, je pense que fondamentalement, c'est différent de la manière dont les autres armées, de manière générale, délivrent le feu. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur justement le fait que le collectif souvent désinhibe la délivrance de la violence, enfin de la violence, plutôt de la force, non pas de la violence. Des études qui ont été faites sur le fait que plus les soldats sont nombreux, et bien plus il y a une émulation au fait d'ouvrir le feu, là où quand les soldats sont plus isolés, et bien ils vont plutôt retenir l'ouverture du feu. Et donc, pour en revenir à ce qu'on disait, les équipages, par définition, les équipages d'aéronefs ont une taille limitée, et donc il y a moins de gens, et il y a moins cette mise en confiance, en fait, où on sait qu'il y a quelqu'un d'autre à côté. Donc là, on a un sentiment que la responsabilité est un peu partagée, et donc on aurait tendance à peut-être délivrer l'armement de manière plus facile ou plus rapide. Alors, évidemment, il y a tout un tas de procédures, je veux pas dire que d'autres tirent bien plus facilement.
On ne peut pas dire que les soldats, les fantassins, voilà, ni les marins sont des fous de la gâchette.
C'est pas du tout mon propos. Mais je pense que, et j'utilise dans mon livre, je parle justement de l'ouverture le déclenchement du feu nucléaire, et je compare le fait que ce soit tiré par un SNLE pour le cas français ou par un Rafale, par exemple. Et pour avoir discuté avec des pilotes de Rafale, ou pilotes ou navigateurs, ou bien des membres d'équipage de SNLE, c'est vrai que la préparation de la mission et le moment où les ordres vont être déclenchés, elles sont pas similaires. Et un équipage de bateau de SNLE d'une centaine de personnes peut pas être assimilé à un équipage à un ou deux d'un avion de chasse. Et donc la prise de décision au moment d'appuyer, même si ça a été décidé avant, mais l'opérateur intervient, et ça, c'est, je pense que ça fait une différence.
d'où la nécessité de cette réflexion et disons de principe et de raisonnement disons éthique sur l'action de l'aviateur. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Morière.
Je vous remercie.
Alors, je vais juste profiter de l'émission d'aujourd'hui pour mentionner ce que certains ont peut-être vu sur les réseaux sociaux, à savoir qu'on a fêté il y a quelques semaines les 2 ans du collimateur, puisqu'on avait commencé à émettre en quelque sorte le 29 janvier 2019. Alors, j'ai pas pu le dire sur le moment, parce que c'est parfois les aléas de la programmation, on sait pas exactement quelle émission sera diffusée quand. Je vais dire donc qu'évidemment, on est plus que ravis de vos écoutes, toujours plus nombreuses, et qui se comptent désormais par centaines de milliers, et de pouvoir continuer à faire ça. Et je vais donc une fois de plus remercier toute l'équipe de l'IRSEM, notamment l'équipe communication, mais aussi et surtout Jean-Baptiste, Jean-Gene Villemer et Nicolas Bronard, sans lesquels cette émission n'aurait pas vu le jour et ne pourrait pas continuer. Merci évidemment aussi et surtout aux invités, parce que ce sont eux qui font la qualité des émissions. Je dis souvent que j'ai la partie facile, moi, parce que je pose juste les questions et j'ai la chance de pouvoir discuter avec des gens passionnants chaque semaine, qui font don de leur temps et de leur savoir pour faire des épisodes. Et puis, merci avant tout à vous tous, donc les auditeurs qui écoutez, suivez et parlez du podcast. C'est vraiment le cœur et la raison d'être du collimateur et de chacun des épisodes, et c'est le moteur de sa croissance toujours continue qui dépasse désormais largement les frontières de l'univers défense, et c'est vraiment très bien comme ça. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que, comme d'habitude, toutes vos remarques et commentaires sont les bienvenus sur les réseaux sociaux ou par mail, et que vos notes et commentaires, notamment sur iTunes, sont aussi très appréciés et aident grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.